peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de ces chroniques hebdomadaires dédiées au cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h30 sur CFM, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors, Jean-Yves, en selle. Pour commencer, si nous prenions le cheval au mot, et aujourd'hui on va parler du poulain. Alors, quelques mots là-dessus. Ce mot est issu du bas latin pulamen. Il désigne le petit d'un animal, spécialement un jeune coq. Dès le 7e siècle, il prend le sens plus spécifique de petit du cheval, ce qui est le terme actuel.
Oui, le poulain, la pouliche.
La pouliche qui est le féminin, tout à fait, Jean-Yves. Alors, actuellement, poulain désigne un cheval de moins de 2 ans. Par analogie, le poulain est aussi l'assemblage de madriers dont on se sert pour le transport des marchandises, mais également dans la construction navale, l'arc-boutant qui empêche le bateau en construction de se déplacer. À la fin du 19e siècle, le mot s'applique à un jeune sportif, puis au milieu du siècle dernier à un débutant qu'une personne influente aide dans sa carrière professionnelle. Alors, les deux dernières émissions, nous avons parlé d'un grand chaman Sioux qui s'appelait Élan Noir. Et on a vu un petit peu sa vie, à la fois dans sa tribu, il a donné beaucoup de spectacles, y compris en Angleterre, devant la reine d'Angleterre, qu'il appelait Grand-mère Angleterre, du reste, nos auditeurs s'en souviennent. Mais là, on va parler beaucoup plus de la religion et de la spiritualité des Sioux. Et en particulier de quelque chose qui est très très important pour eux, qui était la danse du cheval. Alors le 29 décembre...
La mère des Sioux, c'était la terre pour eux représentait le tout.
C'était la terre mère, absolument. Alors le 29 décembre 1890, le massacre de plus de 300 Sioux à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, par la 7e cavalerie américaine, prend pour prétexte que ceux-ci s'étaient rassemblés pour organiser une grande danse du soleil. Pour les Indiens, les danses sont sacrées. Ce sont des actes religieux qui mettent le peuple en relation avec ce qu'ils appellent les esprits du monde. Alors quelques mots d'abord pour décrire la métaphysique et la spiritualité des Indiens d'Amérique du Nord dans la seconde moitié du 19e siècle. Depuis 2 siècles déjà, leur mode de vie traditionnel a été progressivement bouleversé par la colonisation. Pratiquement toutes les tribus ont été déportées dans des réserves, souvent très loin des territoires d'origine. Dans les années 1880, les Indiens désespérés vont alors tenter de retrouver leur identité dans ce que les ethnologues appelleront le grand rêve messianique. Et pour tous ces peuples, la vraie vie n'est plus sur la terre comme auparavant, mais dans le ciel. Les Indiens pensent que le monde est composé de 3 disques reliés entre eux par un unique axe central. C'est d'abord le monde souterrain, première demeure des hommes et des animaux. Le second, c'est la terre, sur lequel se sont installés tous ceux qui marchent sur leurs 2 jambes, 4 pattes, qui volent et qui nagent, guidés par l'aigle tacheté. L'aigle tacheté est très très important. Le troisième monde, enfin, est celui du ciel, dans lequel réside l'esprit du monde, que les Sioux nomment Wakonta, et les esprits des ancêtres, qu'ils soient hommes ou animaux, du reste. Les ancêtres peuvent être à la fois des hommes, mais aussi des animaux pour les Indiens. Alors pour eux, l'accès au monde du ciel est possible par le biais de visions. Ils considèrent en effet que l'homme est constitué d'un corps matériel, terrestre et d'un esprit. Lors d'une vision, le corps reste sur la terre, tandis que l'esprit peut voyager du monde terrestre au monde céleste à la rencontre des ancêtres. C'est la vision que le chaman chef Sioux Lakota Élan Noir a eue vers 1858 et que le messager du cheval veut vous conter aujourd'hui.
Mais il était aidé par le calumet pour ça, parce que c'était quelque chose d'important, le calumet.
Oui, ça on le verra, Jean-Yves. Oui. Toi qui n'es pas fumeur, je te trouve extraordinaire d'en parler.
Non, mais ça aide les chanteurs, ça aide tout. Tout le monde a trouvé l'inspiration.
Alors, Élan Noir a 5 ans. Il part chasser sur son poney muni de l'arc que lui a fabriqué son grand-père. Un orage se prépare. Il aperçoit un oiseau posé sur une branche. Il se dispose à le tirer quand l'oiseau se met à lui parler et lui dit « Partout les nuages se tiennent de côté, écoute, une voix t'appelle ». Élan Noir regarde alors les nuages et on voit sortir 2 hommes qui plongent la tête en avant vers la terre comme des flèches. Et ces hommes chantent, écoute, une voix sacrée t'appelle, par tout le ciel, une voix sacrée t'appelle. Arrivé près des Lents Noirs, ces deux hommes se transforment en noix et disparaissent. Un grand vent se lève et la pluie se met à tomber, accompagnée des grondements du tonnerre. Le tonnerre est très très important aussi pour les Sioux. Les années, et pas rien que pour les Sioux du reste. Hein. Les années passent et Lent Noir, qui n'a jamais parlé de sa vision à personne et qui l'a quasiment oublié, a maintenant 9 ans. Il était quand même parti chasser à 4 ans, hein, très jeune, voilà. C'est désormais un bon chasseur et un guerrier respecté dans sa tribu, un guerrier, il a 9 ans. Hein. Mais un soir, tandis qu'il mange sous la tente d'un ami, il entend une voix qui lui annonce, et la voix est un petit peu plus comminatoire. Le temps est venu maintenant, il t'appelle. Le lendemain, Lent Noir tombe gravement malade. Ses jambes et son visage enflent considérablement, il ne peut plus se tenir debout. À nouveau, il voit deux hommes qui descendent des nuages, la tête en avant, s'installent près de lui, le regardent et lui disent « Dépêche-toi, viens, tes grands-pères esprits t'appellent. » Puis ils repartent dans les airs comme deux flèches échappées d'un arc, très rapidement. Et Lent Noir sombre dans le coma. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission, après une pause musicale. Aujourd'hui, l'homme et la lezan, Doug Auffray.
Écoutez l'histoire qui chante gloire d'un homme aussi beau que son cheval. Sous le soleil brûlant du grand pays texan vivaient cet homme et son alezan. L'homme et sa monture de noble figure chevauchaient dans plus libre que le vent de l'aurore au couchant et plus rapide que l'éclair, menant son étalon puissant comme un canon, il galopait. Sabots en mitraille, un ouragan sans frontières. Luciano Romero, c'est le nom de mon héros, disait comme le veut la légende. Avec toi, camarade, je serre entre mes jambes un volcan et quatre fusils. Des yeux clairs et brillants, une fleur entre les dents, Luciano disait à son cheval que m'apporte le diable si je trouve une femme plus pure que toi ou
vamos, ya, vámonos. Ya nos vamos.
Nous avons laissé le cordel en noir, inerte, veillé par ses parents. Suivons maintenant son esprit qui part à la rencontre de ses ancêtres dans le troisième monde, le monde du ciel, tel qu'il nous le raconte. Alors il est accueilli par un cheval bai qui va être son guide tout au long de ce voyage initiatique. L'animal lui dit, donc le cheval, « Regarde tes ancêtres, regarde-les, il faut que tu connaisses leur histoire. » Devant lui, à l'ouest, se tiennent 12 chevaux noirs avec des colliers de sabots de bison. On sait à quel point aussi le bison est un animal sacré, ça n'est pas simplement un gibier pour les Sioux. Alors leur crinière lance des éclairs et le tonnerre est dans leurs naseaux. Au nord, 12 chevaux blancs dont les crinières flottent comme un grand vent et tout autour d'eux s'envolent et tournoient des oies blanches. À l'est, 12 chevaux alezans avec des colliers de dents d'élan, les yeux luisants comme l'étoile de l'aube. Enfin au sud, 12 chevaux fauves avec des cornes sur la tête et des crinières qui vivent et croissent comme les herbes et les arbres. Alors le cheval B qui a accueilli Lent Noir lui parle une dernière fois pour pour lui confier les quatre pouvoirs qui feront refleurir l'arbre sacré de la nation. Il dit, donc ce cheval, « Vois comme tous ces chevaux se mettent à danser. Les chevaux noirs de l'ouest donnent l'eau qui fait vivre et l'arc et les flèches pour détruire. Les chevaux alezans de l'est te donnent la pipe sacrée et la puissance de la paix. Les chevaux blancs du nord te donnent l'aile blanche du géant glacé qui purifie et la plante sacrée qui est la sauge du reste. Et les chevaux fauves du sud disent enfin, nous te donnons cette baguette fleurie, plante-la au centre de ta nation et elle la fera refleurir. » Et l'en noir sort de son coma, il lui semble voir son village au loin, il presse le pas, un aigle tacheté, toujours un aigle tacheté, vole au-dessus de lui pour le protéger. Il pénètre enfin sous le tipi de ses parents et les voit penchés sur un garçon malade. Il se rend compte alors que ce garçon, allongé là, c'est lui-même. Et il dit, tandis que j'entrais, quelqu'un qui était là a conseillé, « Oh, regardez, le garçon revient à lui, il faut lui donner de l'eau. » Donc c'est une espèce de résurrection. Une affreuse période commence alors pour Elan Noir. Sa grande vision le hante. Il redoute l'arrivée d'un nuage de l'orage. C'est ce qu'il appelle lui-même la grande peur, c'est-à-dire qu'il est paniqué absolument par tout ce qui se passe dans la nature. Il part seul avec son cheval, loin de chez lui, jusqu'à l'épuisement. Et il entend les voix des esprits qui lui rappellent « Elan Noir, il est temps, il est temps !» Les années passent. Le jeune homme a maintenant 17 ans. Alors, inquiet de son état psychique, toujours perturbé, les parents d'Elan Noir font appel à un médecin indien qui s'appelle Black Road, en français c'est Route Noire. Il observe longuement le jeune homme et finit par lui dire « Mon neveu, je vois d'où vient ton trouble. Tu dois faire ce que le cheval B de ta vision voulait que tu fasses, la réaliser sur terre pour ton peuple. Alors la peur te quittera, il faut préparer la danse du cheval. » Les Oglala, donc de la tribu, les gens de la tribu des Lans Noirs font appel à un très vieux sage, Bear Sings, en français ours qui chante. Avec l'aide de Route Noire, celui-ci dresse une tente sacrée en peau de bison sur laquelle il peigne les images de la vision des Lans Noirs. Sur le côté ouest de la tente, il représente un arc et une coupe d'eau. Au nord, des oies blanches et la sauge sacrée, la plante sacrée. À l'est, l'étoile de l'aube et la pipe, dont tu as parlé tout à l'heure, Jean-Yves. Au sud, enfin, la baguette fleurie et le cercle de la nation. La pipe est sacrée aussi. C'est pas comme chez nous, un instrument pour fumer. C'est un objet sacré. Alors, il peigne aussi des chevaux, des élans et des bisons, ainsi qu'un arc-en-ciel flamboyant sur la porte de la tente. Il demande à Elan Noir de jeûner, puis de se purifier dans une loge à sudation en se frictionnant avec de la sauge. Toujours la sauge. On rassemble alors quatre chevaux noirs, quatre blancs, quatre alezans et quatre fauves, ainsi qu'un cheval B pour Elan Noir. On leur peint des éclairs sur les membres et sur les hanches. Et le cheval B, donc le cheval d'Elan Noir, est décoré d'éclairs rouges sur les membres et d'un aigle tacheté aux ailes déployées sur le dos. Elan Noir est peint tout en rouge avec des éclairs noirs sur les bras et les jambes. Il porte un masque noir et une plume d'aigle sur le front, une seule plume. Tout est prêt, la danse peut commencer. Six vieux hommes entonnent les chants sacrés qu'Elan Noir a entendus au cours de sa vision et qu'il leur a enseignés. Alors c'est une nation de chevaux va apparaître, une nation d'oies, regardez. Une nation de bisons va apparaître, une nation d'élans et la nation des aigles, puissiez-vous les voir. Ils sont accompagnés par six tambours. Quatre jeunes filles sont aussi là et symbolisent la vie de la nation. Ils se tiennent au centre d'un cercle formé par les quatre groupes de chevaux placés de front et faisant face aux quatre points cardinaux. Pendant les premiers chants, les chevaux s'agitent, piaffent, ne tiennent pas en place. Puis une chose étrange arrive. Lors d'un chant sacré qui dit « Au centre de la terre, regardez un cheval », le B d'Elan Noir dresse les oreilles et pousse un long hennissement. Les autres chevaux répondent, puis les chevaux du village et même ceux qui paissaient dans les prairie alentour, c'est-à-dire tous les chevaux se mettent à hennir. À nouveau, Elan Noir revoit sa vision. En fait, c'est sa vision qui arrive, que les chevaux lui transmettent. Donc Elan Noir revoit sa vision aussi claire et brillante que lors de la première fois. Mais les choses dans sa tête ont un peu changé. Il réalise que la réalité, la vraie réalité brillante, était celle de sa vision, mais que la réalité de la terre n'en était qu'une ombre. Donc là, c'est un grand moment du messianisme indien, c'est-à-dire on n'est plus sur la terre qui est le plus important et le ciel simplement pour les ancêtres, mais la terre effectivement n'est que le pâle reflet du ciel. Et ça, ça a vraiment beaucoup changé. Alors à la fin de sa vie, Elan Noir confie à son biographe John Nyhart, Donc il a qu'il l'a rencontré dans les années 30, donc qui dans la réserve de Pine Ridge, et donc il l'a interrogé. Alors Elan Noir dit, et là c'est vrai, nous sommes un peu avec un temps triste, et c'est pas très gai ce que dit Elan Noir. Il dit il y a tant à vous apprendre. Ce que je sais me fut donné par les hommes. Cela est véritable et cela est beau. Bientôt je serai sous terre et ce sera perdu. C'est un vieux monsieur quand il parle. Grand esprit, mon grand-père. Tu m'as donné des pouvoirs trop forts que je n'ai pas pu utiliser pour mon peuple. Tu me vois ici, je ne suis qu'un vieil homme pitoyable, je n'ai rien fait. L'arbre de ma nation s'est desséché. Il se pourrait qu'une petite racine vive encore. Nourris-la pour que reviennent les feuilles, les fleurs et les oiseaux. Écoute-moi, non pour moi-même, mais pour mon peuple.
C'est un poème de circonstance, je crois, à notre époque.
Alors, je peux conseiller deux livres pour ceux qui voudraient en savoir plus. Un gros pavé qui s'appelle Le chamanisme du philosophe et anthropologue Mircea Eliade, et c'est aux éditions Payot dans la collection Payothèque. Et enfin, un article dans le magazine Géo, donc c'est le numéro 358, qui explique un peu la condition des jeunes Sioux dans la réserve de Pine Ridge, la sinistre réserve où Elan Noir a été déporté, mais où les enfants actuellement et les Indiens vivent toujours. Et ça s'appelle « L'héritage perdu des enfants Sioux ». Alors bon Jean-Yves, après ces choses un petit peu mélancoliques, nous allons écouter ta leçon. Et aujourd'hui, je vais citer une phrase que tu utilises souvent, je te l'ai entendu dire beaucoup de fois, c'est « y être ». Encore y être, toujours y être.
Mais ça, c'est le secret pour pouvoir apprendre le langage du cheval, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir se faire comprendre. C'est important. Il faut vivre avec. Il faut commencer par l'entretenir, par le soigner, par lui donner tout le réconfort nécessaire et possible. Et après, la gymnastique qui lui est aussi sanitaire. Donc, il faut y être, il faut vivre avec. Et c'est un peu le secret des gens qui font des choses extraordinaires avec les chevaux. Voilà pourquoi je dis que le secret, c'est ça. Y être, non seulement avec son corps, mais avec sa tête aussi, y être en permanence. Et y être avec son amour, avec sa passion, avec tout son... C'est sublimer, c'est servir le cheval.
Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas être un bon cavalier si on est dilettante, si on est un dilettante.
Mais on ne peut pas... On peut pas faire du cheval comme on fait un tour de manège le jour de la foire. Mmh. Donc il faut... C'est un animal vivant. Il faut commencer à l'intéresser et qu'il s'intéresse à vous. Donc il faut créer ce désir de communiquer qui est très important. Et ce désir de communiquer... quand on l'a découvert et quand il y est, eh bien, il faut l'entretenir. Voilà pourquoi il faut jamais lâcher, il faut y être tout le temps.
D'accord, merci Jean-Yves. Alors, écoute, Élise m'a appelé l'autre jour et elle te pose une question. Alors voilà, elle te dit, Jean-Yves, la monitrice nous demande toujours à la fin des reprises de doucher les membres des poneys. Pour Lutin, pas de problème, il adore ça. Elle dit même, il met la tête sous le jet d'eau et ensuite, moi, je dois l'essuyer et je suis pas trop contente. Voilà. Mais à quoi, alors elle te demande, sa question c'est ça, mais à quoi ça sert de faire chaque fois, de doucher le cheval à chaque fois alors que les membres des poneys sont propres, il suffirait de brosser un peu?
Si Morgane était là, puisqu'il était là la semaine dernière, elle pourrait répondre plus spécifiquement que moi. Mais moi, je pense que d'abord, c'est vrai, le cheval n'a pas de pattes, il a des membres. Et ces membres, eh bien, il faut, comme dans tous les sportifs, il faut les masser, il faut les regarder, il faut les observer. Voilà pourquoi le pansage, c'est important le matin. C'est obligatoire. Donc, c'est un acte de propreté, mais c'est un examen médical. Il faut voir si le cheval n'a pas les tendons chauds, s'il est bon, et puis alors ces tendons, eh ben, il faut les rafraîchir par de l'eau, par des massages, et par tous les moyens possibles pour les rendre normaux.
Bon, donc, Élise, douche bien les membres de ton poney. Alors, le dicton du jour qui nous vient de nos amis anglais, de leur humour inimitable. Alors, c'est formidable. Le cheval, de tous les animaux domestiques, est le plus égalitaire. Le plus égalitaire. Il peut vider de sa selle, quand il le veut, sans faire de distinction, un roi, une princesse ou un simple particulier.
Ben oui, ça revient à dire que l'équitation, ça ne s'achète pas, ça se mérite, ça se gagne, et puis ça ne se correspond pas de l'argent. Donc ça, c'est pareil. Pour les classes sociales, c'est exactement pareil. Aussi bien le PDG que le moindre employé peut se faire vider par le cheval ou la jeune fille comme le garçon.
Voilà, c'est ça. Que l'on soit puissant ou faible, de toute façon, le cheval ne fait pas la différence.
Mais quand on n'est pas avec, c'est comme ça.
Voilà, quand je vais te virer, je te vire. Et en plus, c'est quand même formidable, parce qu'on l'engueule pas, le cheval. Bon, on n'est pas très content, mais enfin, on l'engueule pas, quoi. En plus, on se dit, ah oui, mais c'est moi qui ai dû faire une erreur. C'est formidable d'être le cheval. Moi, j'aimerais bien le cheval comme
mais
ça.
Mais c'est ça, justement, il vous remet en place.
Ah ouais, il y aurait quelques personnes que j'aimerais bien virer comme ça. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour de nouvelles chroniques sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces chroniques sur le site cfmradio.fr à la rubrique « Le messager du cheval ». Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
C'est bien.
Hey, hey, partis les chevaliers, allons et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. C'est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, 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 marche droit et souris. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmiers, tu langues d'Ocorouègue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Salmiers, milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landor, capitale du roer de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel.